Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'Afrique veut sa zone de libre-échange, mais en prend-elle vraiment le chemin ? La zone de libre-échange continentale africaine, plus connue sous l'acronyme ZELECAF, est un projet dont l'accord remonte à 2018. 7 ans après, où en sont les échanges intra-africains ? La liberté de circulation des biens et des hommes est-elle réelle ? Les services financiers sont-ils libérés ? Pour faire le point sur cet immense projet, j'ai invité Benjamin Alamné Minda, économiste et auteur d'un livre consacré au sujet, paru chez l'Harmattan et intitulé « La coopération intra-africaine ». Bonjour Benjamin Alamné Minda.
Bonjour Chalali.
Alors, c'était logique cette zone de libre-échange à partir du moment où en 63 on crée l'Organisation de l'Unité Africaine ?
Alors oui, parce que effectivement en 1963, ce qui va conduire l'Organisation de l'Unité Africaine à se fonder, c'était d'abord premièrement les questions liées à l'indépendance.
Voilà. Oui.
Donc on était plutôt sur des questions d'émancipation de nature politique, mais très rapidement les États africains vont se retrouver dans une mondialisation dont ils n'ont pas été partis dès le départ, puisqu'entre-temps, ils étaient donc sous le joug de la colonisation. Eh bien, ils intègrent la mondialisation suivant des règles qui ont déjà été établies, les accords de Bretton Woods et autres. Je ne vais pas donc revenir là-dessus. Et donc, va se poser la question du développement économique et de l'aspiration de ces peuples émancipés à plus de liberté et aussi d'action économique. Donc, ce qui va conduire plutôt en 1980, en réalité, avec les accords de la accord de Lagos qui va instituer la communauté économique africaine. Et parmi les étapes, on retrouve la zone de libre-échange continental africain comme étant, si vous voulez, le premier étape qui devrait avoir lieu. Donc il y a tout un calendrier qui a été mis en place déjà avec Lagos, mais qui n'a pas été, si vous voulez, suivi de bout en bout jusqu'à aujourd'hui.
C'est quoi le modèle ? C'est l'Union Européenne ?
Oui, c'est le modèle
d'intégration. C'est vrai, c'est vraiment...
Effectivement, c'est si vous voulez, c'est le modèle, enfin, c'est la lumière d'intégration, on va dire, entre guillemets, que suivent le modèle économique africain. Donc l'idée c'est de se dire que on va partir d'abord d'une zone qui permet de libéraliser les échanges, puis progressivement on va aller vers une union douanière et puis arriver finalement à une communauté économique africaine à l'image un peu de ce qu'est l'Union européenne. Oui, donc c'était ça l'idée de départ, si vous voulez.
Choisis
mais les
donc...
étapes ont été différentes.
Voilà, donc ça a été décidé en 2018, mais entré en vigueur en 2021.
Exactement.
Il y a 54 pays africains, oui. Mais tous ne l'ont pas ratifié. Alors mes derniers chiffres, en mars 2024, c'était que 7 ne l'avaient pas encore ratifié.
Oui, effectivement. Donc, alors vous avez en tout 44 États qui ont déposé leur instrument de ratification. Alors, c'est entré en vigueur plus exactement le 30 mai 2019, mais opérationnalisé en réalité à partir de 2021, en raison notamment de la crise de la Covid-19 que vous connaissez. Et donc la période a suivi, si vous voulez, une période d'instabilité assez énorme qui n'a pas permis justement de lancer le commerce. Donc 2021, on arrive à une opérationnalisation avec des lancements un peu partout de l'accord, mais c'était toujours resté dans une dimension, si vous voulez, assez symbolique de la part donc des chefs d'État.
Voilà. Alors si l'exemple c'est l'Union européenne, vous savez qu'on a du mal à s'entendre à 27.
Oui,
donc j'imagine que s'entendre à 54, c'est encore plus difficile, non ?
Exactement. En fait, l'Union africaine a un défi énorme qui est celui de miser sur l'intégration économique. Alors l'intégration politique est relativement consolidé, on peut dire ainsi, puisque ça a débouché à ce que vous savez, l'Organisation de l'Unité africaine, puis l'Union africaine. Mais l'intégration économique patine toujours.
Ouais.
Donc on a du mal, si vous voulez, à retrouver un peu nos marques dans la mondialisation. Et si je pense, c'est l'une des raisons pour lesquelles la ZELECAF peut, si elle est bien opérationnalisée, donner peut-être des chances de remédier à cela.
On est sûr de la volonté vraiment politique de cette zone de libre-échange des 54 pays ?
Oui, la volonté politique y est, mais il y a des défis qui se posent à cette zone de libre-échange. Si vous voulez, sur le plan effectivement national, donc on est sur des États qui ont des disparités économiques assez importantes. Parmi les 44 États qui ont déposé l'instrument de ratification, vous en avez 35 qui sont des PMA, les pays les moins avancés.
Mmh.
Voilà. Et donc, ça devient effectivement compliqué pour ces États-là.
Il s'agit de s'ouvrir en se protégeant, c'est ça ?
Bah, en fait, c'est ça le dilemme, en réalité. C'est le dilemme, effectivement. S'ouvrir ou se protéger. protéger, c'est un peu le dilemme dans lequel la ZLECAF se trouve. Alors, l'idée, c'est que la ZLECAF ne laisse pas non plus, si vous voulez, une porte ouverte à la libéralisation tout court. Hein. Il y a également des instruments de flexibilité donc, qui sont intégrés. Mmh. Donc, l'idée, c'est de dire, écoutez, il y en a qui ont des économies moins avancées, donc il faudrait qu'ils libéralisent sur des échelons qui peuvent aller de 10 à 13 ans, ouais. donc de manière progressive. Donc, il y a quand même cette flexibilité.
Voilà. Et il y a du travail, puisque quand on regarde les chiffres, hein, c'est à peu près 13% le business intra-africain.
Absolument.
Hein, alors
Absolument.
Que si on compare à l'Asie, c'est 55%. Et si on compare, là, pour le coup, à l'Union européenne, c'est 70%.
Ouais, donc il y a énormément de travail à faire. Et on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans la mise en œuvre pratique et concrète, vous avez que 8 États actuellement qui ont commencé, on va dire, entre guillemets, à commercer sur la base d'une décision des chefs d'État de décembre 2020. Ouais. Donc pour le Kenya, notamment avec le lancement
le Rwanda, la Tanzanie, voilà, la Maurice, l'île Maurice, le Cameroun et l'Égypte.
Exactement.
Ils ont envie d'avancer, eux.
Ils ont envie d'avancer. Ouais. Mais voilà, ça reste toujours très, voilà, dans une dynamique encore très symbolique, hein, on va dire comme ça.
Ça veut dire quoi quand ils disent on veut avancer ? C'est-à-dire qu'ils baissent complètement les barrières tarifaires à 3% ?
Et, enfin, ils libéralisent sur les lignes de liste qu'ils ont soumises. Par exemple, pour le Rwanda, il me semble, ce sont le café instantané. Ouais. Donc, ils vont libéraliser, donc voilà, hauteur 90%. Voilà, il faut libéraliser 90% du café instantané à droit de douane zéro. Ou à droit de droit nul. C'est ça l'idée. Et pour le Cameroun, c'est le thé, voilà. Ouais. Et puis pour le Kenya, donc, ce sont les piles. Donc oui, ils ont envie d'avancer. Alors, il y a deux manières quand même de réguler cette libre-échange. Il y a soit l'État qui va prendre un engagement individuel en disant, moi, l'État, je vais donc soumettre des listes pour permettre de réduire des droits de douane. Ou encore, l'État peut aussi dire, comme j'appartiens à une communauté économique régionale comme la CEMAC, comme la CDAO, l'UMOA, eh bien, je vais plutôt demander aux États membres aussi de cette même communauté qu'on aille ensemble, vous voyez, de façon collective. Donc, il y a ces deux possibilités.
Donc, du régional dans le régional.
Du régional dans le régional.
Bon, on est d'accord que ce régional dans le régional, l'UEMEA, etc., c'est amené à disparaître.
Alors, en fait, dans le projet initial de Lagos, oui, c'était ça, initialement, c'était de dire que quand ces organisations seront suffisamment consolidées, effectivement, elles devraient disparaître pour laisser place à la communauté économique africaine, mais j'avoue que la communauté économique africaine devient de plus en plus un rêve très lointain en raison de la difficulté qu'il y a à harmoniser un peu non seulement les règles, mais aussi la réalité économique, tout simplement. Mmh. Donc voilà, on est un peu, si vous voulez, dans
cela. Il y a quoi, les principaux produits qui sont libéralisés, c'est quoi ?
Alors, vous avez en tout 96 produits. Ouais. Donc les lignes, alors sur ces questions-là, bon, c'est un peu technique, mais évidemment, les lignes partent de produits dits non sensibles, c'est-à-dire sur lesquels on peut prendre l'engagement tout de suite, le maïs, le blé, le riz. Ouais. On peut tout de suite dire, on va 90% vont partir.
Il faut assurer la sécurité alimentaire.
Exactement.
Aussi.
Et puis vous avez des produits donc qui sont donc dites sensibles pour le coup, où il va y avoir un peu plus de réticence à libéraliser. Donc là, on est sur des proportions un peu moindres, autour de 20-30%.
Voyez. Ouais. Et c'est quoi ces produits sensibles?
60%. Alors, l'amidon, entre autres. Ouais. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Vous avez toute une liste commune, par exemple, de la CEMAC et de la CEAC. Ça fait 155 pages en tout. Hein. Donc, il y a assez de produits qui sont dits sensibles. Alors, la qualification...
Sensibles parce qu'ils sont protégés par l'État, déjà.
Exactement. Sensibles parce que l'État les considère comme faisant partie des produits qui sont à même de rehausser un peu le niveau fiscal et économique. D'accord. Donc, voilà, c'est dans ce sens, dans l'idée du protectionnisme, justement.
Quelles seraient les prochaines étapes importantes, même symboliquement, pour faire avancer la ZLECAF ?
Alors, les prochaines étapes importantes, ça va être l'opérationnalisation.
Ouais.
L'opérationnalisation, mais cette opérationnalisation doit se faire en se fondant sur la réalité quand même.
L'opérationnalisation, c'est tout simplement...
C'est le fait de commencer à
échanger
et à agir.
Ouais.
Voilà. Donc, sortir un peu des agoras diplomatiques et des discussions de coulisses et agir véritablement pour que l'accord soit en œuvre. Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a 8 États qui ont commencé à agir, mais ce n'est pas suffisant.
Ah bah non, sur 54,
c'est ça. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut y aller palier par palier et puis... aussi mettre sur pied les infrastructures qu'il faut.
Oui, voilà, de transport.
Voilà. C'est un problème majeur. Donc, il y a le défi des infrastructures. On a besoin de... La Banque mondiale estime qu'on a besoin de 90 milliards ou près de 100 milliards chaque année de dollars pour pallier à ce problème des infrastructures. Or, en réalité, on n'a pas souvent ces fonds-là. Mmh. Et puis, il y a aussi l'autre difficulté, c'est que si vous ouvrez les barrières, vous dites que les gens vont commercer, il faut leur laisser la possibilité via l'exemption des visas. Hein, ouais. Il ne faut pas qu'il y ait des visas.
Pour le Ghana l'a fait. Hein.
Le Ghana l'a fait, exactement. Et heureusement.
Aucun visa pour les pays africains.
Exactement. Voilà. Donc, heureusement qu'on peut aller donc, aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, aller au Ghana tranquillement. Donc, c'est aussi, le Ghana, je pense, est dans cette dynamique-là aussi, comme le secrétariat est là-bas, de libéraliser.
Merci beaucoup Benjamin Alamné, Linda, pour vos réponses.
Merci.
L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.